au cœur de la santé, avec les élèves de seconde paysage et commerce de la maison familiale et rurale Lavernet de Peronna. Des chroniques pour en savoir plus sur le milieu de la santé, à retrouver à 7h, 8h et midi sur Radio B.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu.
Et moi, Alexis.
Quand on dit santé, on pense à beaucoup de choses, notre alimentation, le sport, mais aussi le sommeil.
Oui, on entend pas mal de choses à ce sujet. Pour en avoir une idée plus précise de l'impact du sommeil sur notre santé, nous avons interviewé Mélinda Poisson. Elle est formatrice à la MFR en biosanté. Mélinda Poisson, vous êtes professeure de biosanté à la MFR de Peronna. Vous donnez notamment des cours sur les bonnes attitudes à avoir pour être en forme. Dans cette chronique, on s'intéresse au sommeil.
À quoi ça sert de dormir ?
À quoi ça sert de dormir ? On pourrait déjà commencer par réfléchir à est-ce que tout le monde dort ? Alors si on regarde un petit peu ce qui se passe par exemple dans la nature, on s'apercevra que malgré des millions d'années d'évolution, tous les animaux dorment. Est-ce que vous avez une idée de combien d'années un homme dans sa vie dort ?
Une dizaine d'années ?
25 ans. Alors on va passer 25 ans au cours d'une vie à dormir. Donc c'est probablement parce qu'il y a une bonne raison. Alors principalement, le sommeil, sa première fonction, c'est de réparer un corps qui tout au long de la journée va s'abîmer. Il va s'abîmer physiquement et il va s'abîmer mentalement, que ce soit les animaux ou que ce soit les hommes. Voilà, donc c'est pour ça que tous les organismes vivants dorment.
Combien de temps faut-il dormir au minimum pour une nuit complète chez un adolescent ?
Alors, préciser chez un adolescent, c'est une très bonne question, puisque ce temps de sommeil, il varie tout au long de notre vie. Chez l'adolescent, les spécialistes estiment aujourd'hui qu'il faut dormir entre 9 et 10 heures. On sait que ce chiffre est largement peu atteint par une majorité des adolescents d'aujourd'hui. Il a été réduit dans les dernières années et on voit que ça commence à engendrer des troubles. Si on prend par contre les enfants, les tout petits nourrissons, ils peuvent aller jusqu'à 15 à 20 heures de sommeil, alors qu'après un adulte, lui, va réduire son temps de sommeil entre 7-8 heures, même si dans la réalité, on serait plutôt proche, je dirais, de 3 heures pour le minimum et pour certains jusqu'à 12 heures en fonction de leur travail.
Quelle serait la durée de sommeil idéale pour un adulte ?
Donc c'est ce que je vous expliquais, la durée de sommeil pour un adulte, elle va dépendre de son activité professionnelle. Il y a certaines professions où, par exemple, les gens vont devoir travailler la nuit, donc ils vont avoir un sommeil qu'on appelle désynchronisé. Donc ce sommeil-là, il va se faire en plusieurs temps, et du coup, ça peut écourter ce temps de sommeil. Mais voilà, je dirais que le temps de sommeil d'un adulte, aujourd'hui, il serait entre 7-8 heures à peu près.
Que ne faut-il pas faire avant de s'endormir ?
Alors, ce qu'il ne faut pas faire pour avoir un sommeil bien réparateur, c'est-à-dire pour avoir un sommeil qui va jouer son rôle, il faut éviter de manger trop gras et trop sucré, parce que ça va avoir des conséquences sur l'activité physiologique. Ça va notamment, si c'est trop gras, ça va faire monter la température du corps. Et pour pouvoir bien s'endormir, il faut avoir le corps sa température qui s'abaisse en dessous des 37 degrés. Il faut essayer, alors vous avez dit ce qu'il ne faut pas faire. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, il faut éviter les écrans. Là aussi, c'est quelque chose qui perturbe beaucoup le sommeil de nos adolescents. Ce qu'il ne faut pas faire également, c'est avoir un fond sonore, c'est-à-dire qu'il faut vraiment avoir un environnement qui serait très calme. Il faut éviter d'avoir une activité sportive à proximité de l'endormissement. Si on veut faire du sport, il faut que ce soit décalé au moins de 2-3 heures avant de vouloir s'endormir.
En quoi manger sain aide-t-il à mieux dormir ?
Alors comme je vous l'expliquais au départ, le sommeil, ça sert à réparer. Donc si on a une alimentation qui est adaptée, équilibrée, on va apporter à son corps tous les éléments utiles à cette réparation. On sait aussi, parce qu'il y a des expertises qui ont été menées là-dessus, que certains aliments, produits qui sont connus dans les aliments, vont jouer un phénomène positif sur la phase d'endormissement. Par exemple, on sait qu'il y a certaines vitamines qui vont jouer un rôle sur l'endomorphine.
Quelles sont les maladies liées au sommeil ?
Il en existe plusieurs. Les plus connus sont l'insomnie, qui est une maladie dont le trouble est de ne plus arriver à dormir. Il y a l'hypersomnie, qui est le trouble inverse, c'est-à-dire que les personnes ont tendance à trop dormir. Après, il existe d'autres maladies, je dirais la parasomnie, de mémoire comme ça, qui existe. Et puis après, il y a tous les troubles liés à la désynchronisation. Le sommeil, c'est ce qu'on rentre dans des phénomènes physiologiques qu'on appelle les cycles circadiens, avec une répétition tous les 24 heures. Et on a parfois, par la profession ou d'autres raisons d'activité de la vie qui peuvent s'imposer à nous, à avoir un dérèglement de ce phénomène du cycle circadien, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'endormir tous les 24 heures et ça peut créer des troubles du sommeil.
Pourquoi faisons-nous des rêves et des cauchemars ?
Alors les rêves, ça reste encore un grand mystère, parce que c'est très difficile d'étudier ce qui se passe. On sait qu'il y a des études qui ont été menées. Moi, de ce que je sais, c'est qu'il y a... Je m'étais intéressée au phénomène du fait qu'il y a des personnes qui se souviennent très bien de leurs rêves et d'autres personnes qui ne s'en souviennent pas. Alors, a priori, les personnes qui se souviennent bien de leurs rêves seraient des personnes qui se réveillent très très facilement. Alors, ce qu'on appelle des micro-réveils, alors au moindre petit bruit, se réveillent très très facilement. Et ces personnes-là sont les personnes qui arrivent à se souvenir de leurs rêves, probablement parce que elles vivent ces micro-réveils pendant lequel le cerveau arrive à se souvenir de ce qui s'est passé. Les personnes qui ont des sommeils beaucoup plus profonds, eux, n'arrivent pas à s'en souvenir. Après, le rêve, en fait, il permettrait, mais là aussi on est obligé de parler conditionnel, il permettrait un petit peu de faire une sorte d'apprentissage. C'est-à-dire que si on a des craintes, alors je vais prendre un exemple, on vient de commencer à apprendre à faire du ski et on a des peurs. Et en fait, de rêver de faire du ski, on commence déjà à trouver des solutions au travers de ses rêves pour ensuite être plus performant quand on va refaire du ski.
Existe-t-il des remèdes pour le ronflement ?
C'est aussi une bonne question, puisque le ronflement, c'est un gros perturbateur du sommeil. Oui, les scientifiques se penchent sur ce problème-là, en particulier pour une partie de la population un peu plus vieillissante, parce qu'en fait, en vieillissant, les muscles de la gorge se détendent et fait que la respiration est moins efficace. Et en fait, le ronflement, il est lié au fait que l'air passe moins bien au niveau de la gorge. Donc, il existe des appareillages, en fait, pour faciliter et améliorer la respiration. Comme ça, je dirais des masques avec un apport d'oxygène supplémentaire, mais toutes les personnes ne le supportent pas parce que c'est pas facilitant dans la nuit. Il existe aussi des écarteurs de nez qui permettent du coup de mieux faire passer l'air au niveau du nez, ce qui évite le ronflement. Je crois qu'il existe des sprays. Il y a aussi des choses un petit peu plus folkloriques. J'avais lu qu'il existe par exemple des boules qu'on peut se mettre au niveau de la ceinture qui empêchent que, en fait, la boule est au niveau du dos, ce qui fait que c'est pas agréable et on peut pas se mettre sur le dos. Du coup, on est obligé de basculer sur un côté. Et quand on est sur le côté, l'air circule mieux et du coup, on ronfle pas.
Pourriez-vous nous donner des astuces ou des conseils pour bien s'endormir ?
Oui, parce que ça, par contre, c'est quelque chose qui a bien étudié et on sait. Alors, il faut déjà, pour dormir, avoir une bonne literie, avoir une chambre, une pièce qui est adaptée et qui est faite pour dormir. C'est une erreur, par exemple, que font beaucoup de parents de punir les enfants dans leur chambre. En punissant un enfant dans la chambre, il assimile la chambre à un endroit de punition et du coup, il n'a pas envie d'y aller pour dormir. Donc, il faut vraiment que ce soit un endroit où on ait envie d'aller. Hein, on commence déjà à avoir envie d'aller dans sa chambre pour s'endormir parce que du coup, le sommeil est assimilé à un moment de plaisir. Alors, on a déjà fait un bon bout du chemin. Donc, il faut être dans une pièce où on est bien, dans une pièce où la lumière va être réduite, dans une pièce où il ne va pas faire trop chaud. Il faut une literie plutôt rigide que souple. C'est mieux pour le tonus musculaire qui va y avoir pendant la nuit. Après, on a vu tout ce qu'il ne faut pas faire. Et puis, il faut essayer de créer un rituel. Le rituel facilite l'endormissement. Par exemple, lire un livre, c'est quelque chose d'apaisant et qui va conditionner le corps. S'endormir à des heures régulières. Je vous ai expliqué tout à l'heure que c'était sur un cycle circadien. Donc, si le corps retrouve ce cycle-là en respectant des horaires de coucher, donc éviter, par exemple, un coup de se coucher à 2h du matin, un coup à 6h de l'après-midi. Voilà, et éviter le problème de désynchronisation. On peut faciliter le sommeil.
Vous l'aurez compris, il est important de faire attention à son sommeil.
Merci pour votre écoute.
Bonne journée tout le monde.
Merci à la DRAC et à la région Auvergne-Rhône-Alpes pour le financement de ces chroniques. Au cœur de la santé, des chroniques à retrouver en podcast sur Radio B. My bones and my brain. I tried to make it burn.